Bonjour à tous. Donc, dans les carnets, vous trouverez une petite feuille avec le plan de la prédication si vous voulez suivre ou prendre des notes. Quand on achète quelque chose, on aime bien en avoir pour l'argent qu'on y a mis. Ça paraît assez évident. C'est pénible quand on achète quelque chose de se rendre compte ensuite que c'était du toc, que ça n'avait pas de valeur. Cependant, parfois, on peut se faire avoir par les apparences. Il y a des choses qui peuvent nous paraître très précieuses, qui en fait ne le sont pas, et on peut passer à côté de choses qui sont très précieuses sans qu'on s'en rende compte. Ici, dans le texte, c'est le cas pour les Corinthiens. Les Corinthiens, ils se pensent intelligents, ils pensent faire une bonne affaire, alors que pas du tout. C'est pourquoi Paul, à partir du verset 20, il les reprend. Il va leur dire, si on regarde le texte, verset 20, vous supportez qu'on fasse de vous des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. On peut se demander pourquoi est-ce que les Corinthiens, ils supportaient ça? Eh bien, ils le supportaient bien parce qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Et ce qu'on verra dans un instant, c'est que ça peut aussi être le cas pour nous, qu'on peut se faire exploiter, qu'on peut se faire mépriser sans se rendre compte. On croit faire une bonne affaire, mais en fait, bon, c'est du toc qu'on nous donne. En 1999, 1999, désolé, je suis trop français, a été mis en enchère un urinoir sur le marché de l'art. Ça peut paraître très surprenant. Qui va acheter un urinoir? Et personnellement, si on me l'avait offert, je ne l'aurais pas accepté. J'aurais regardé c'est quoi le chemin pour aller à la déchetterie. Ça me servira à quoi? J'ai des toilettes, un urinoir fait en usine, ça vaut rien. Ça vaut rien. Je ne vais pas l'exposer chez moi. Pourtant, cet urinoir, c'est une pièce importante dans l'histoire de l'art. Il a été vendu pour 1,7 million. 1,7 million pour quelque chose qui ne paraissait comme rien. C'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Marcel Duchamp, une place importante dans l'histoire de l'art, qui fait que ça a une valeur extraordinaire. Pourtant, selon les apparences, bah, ça vaut rien. Ça vaut rien. Et là, on voit que les apparences peuvent être vraiment trompeuses. Dans notre texte, entre les Corinthiens et l'apôtre Paul, bah, ils se retrouvent avec une conception des valeurs qui est très différente. Alors que les Corinthiens se croient sages, ils pensent faire une bonne affaire, mais Paul leur dit qu'ils se font complètement avoir. Les Corinthiens, si on regarde au contexte, ils ont rencontré des nouveaux enseignants. Et depuis qu'ils ont ces nouveaux enseignants, qu'on appelait le super apôtre dans un passage précédent, eh ben ils se disent que finalement, ben Paul qui avait implanté l'Église, ben c'était pas si dingue que ça. C'est bof. Et bien heureusement, maintenant, ils avaient trouvé des super apôtres. Ils avaient trouvé des super apôtres, ils avaient trouvé mieux. Et au-delà d'être une affaire juste personnelle de jalousie entre Paul et d'autres prédicateurs, en fait, ça touche à une question qui est beaucoup plus profonde. Une question qui est beaucoup plus profonde. Et c'est pour ça que Paul va écrire aux Corinthiens. Ça touche à une question de deux visions différentes de ce qu'est-ce qu'on considère beau, précieux et glorieux. Derrière cette question d'apôtre et de super apôtre, en fait, il y a une question plus profonde de qu'est-ce qu'on considère comme glorieux dans la vie? Qu'est-ce qu'on considère comme étant le succès? Et à partir de ça, on va pouvoir juger comme ben voilà, la qualité peut-être des enseignants et même peut-être plein d'autres choix dans nos vies. Quelle direction est-ce qu'on va prendre? Donc l'enjeu précis pour eux, c'était de ben, est-ce que les Corinthiens faisaient le bon choix en passant à des nouveaux enseignants? Quittant Paul, délaissant Paul pour arriver avec leurs nouveaux super apôtres? Ou est-ce qu'en fait, ils étaient en train de complètement se perdre? Complètement se perdre en s'attachant à du toc. Ce risque qu'ils encouraient de se tromper sur la valeur des choses, de s'attacher à quelque chose en pensant que c'était précieux alors que ça ne valait rien, eh ben, ça peut encore nous arriver pour nous aujourd'hui. Nous aussi, on peut vraiment sérieusement se tromper sur ce qu'on considère beau, précieux et glorieux. On peut finir par poursuivre des choses en se disant « Waouh, ça c'est extraordinaire !» Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc regardons au texte et voyons comment Paul interpelle les Corinthiens par rapport à cela. Notre texte, c'est extrait de l'épître de Paul aux Corinthiens. C'est une lettre que Paul, l'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ, écrit à l'église de Corinthe, une église qu'il a implantée, qu'il aimait et qui est en train de s'égarer. Au début de notre chapitre, on n'a pas lu ça dans la lecture d'aujourd'hui, mais au verset 3, il dit « Je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. » Ils sont en train de se perdre. Et puis, versets 4 et 5, suite à une rencontre de super apôtres, ils supportaient qu'on leur parle d'un autre Jésus, d'une autre bonne nouvelle. Ce qu'on voyait, c'est qu'ils s'étaient tournés vers le Jésus que Paul prêchait pour le pardon de leurs péchés. Mais maintenant, peu à peu, ils se laissaient entraîner par d'autres enseignants vers d'autres choses. La situation était très grave et c'est pourquoi, à la fin de notre passage précédent, Paul, il en parle comme étant des apôtres de mensonges. Paul, il continue donc son argumentation pour montrer à quel point ces apôtres dont il a parlé la dernière fois, c'était vraiment, malgré les apparences, n'importe quoi, complètement des fraudes, du toc, des gens qui les perdaient. Et pour continuer son argumentation, ce qu'il va faire aujourd'hui, ce qu'on doit faire dans notre texte, c'est s'il se compare à eux. Il se compare à eux. Et pour un instant, c'est très unique ce qu'on va voir, Paul va se vanter. Se vanter. Il va faire le fier pour permettre aux Corinthiens de pouvoir juger. Entre lui et les super apôtres, on va regarder lequel est réellement le meilleur. Verset 18, on voit ça, il dit « Puisque beaucoup se vantent selon des critères purement humains, je me vanterai aussi. » Et c'est ce qu'on va voir dans la suite, à partir du verset 22. Paul se vante. Il veut présenter aux Corinthiens à quel point il y a quelque chose de plus glorieux. Et que lui, il est un apôtre d'un ministère bien plus glorieux que ce que les super-apôtres présentaient. Les super-apôtres sont avec les Corinthiens, ils font leur pub, ils attirent les Corinthiens à eux. Et maintenant, on a en quelque sorte comme Paul qui envoyait lui aussi une pub pour montrer, mais regardez, comparez et voyez, qu'est-ce qui est le plus glorieux? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Donc Paul, il en est contraint dans le passage à se comparer à eux pour que les Corinthiens puissent évaluer. Parce qu'on a bien compris cela. Verset 17, que nous dit Paul, « Ce que je vais dire, je ne dirai pas selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir des raisons de me vanter. » Puis à la fin du verset 21, « Cependant, tout ce qu'on peut oser dire, je parle comme un fou, j'ose le dire. » Ça vaut la peine de rappeler que voilà, c'est pas du tout commun dans les habitudes de Paul de se vanter ainsi. S'il le fait, c'est seulement parce qu'il a besoin de réveiller les Corinthiens. À quel point c'est du toc, à quel point c'est n'importe quoi, la direction où ils vont. En temps normal, Paul est bien conscient que ce serait pas du tout raisonnable de se vanter ainsi. Donc à partir du verset 22, qu'est-ce qu'on voit? On voit Paul qui commence à se vanter. Regardons à cela. Il commence, lisons le verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham? Moi aussi. Il commence par dire que lui, il est hébreu, comme les super apôtres, qu'il a aussi la même origine. On voit ailleurs, dans d'autres textes du Nouveau Testament, que ces choses, en réalité, elles n'ont pas vraiment d'importance. Mais il est obligé de le dire parce que les super apôtres et les Corinthiens semblaient, eux, y apporter de l'importance. Par contre, à partir du verset 23, ce qu'on voit, c'est que Paul arrive aux choses sérieuses. Début du verset 23, il pose la question « Sont-ils serviteurs de Christ ?» Là, on arrive dans le vif. Qui est le meilleur serviteur de Jésus? Avant d'enchaîner, Paul va préciser qu'il parle comme un fou. Il est conscient que c'est complètement inapproprié en temps normal de se vanter d'une telle manière. Mais cette question, elle est claire. Qui est le meilleur serviteur de Jésus? Verset 23, lisons la suite. Ils sont serviteurs de Christ, je parle comme un fou, je le suis plus encore. Ici, au moins, on peut se dire, Paul, il est clair. Il affirme clairement, haut et fort, qu'il est un meilleur serviteur que ses super apôtres. On va donc regarder la suite et voir pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est un meilleur serviteur que ses super apôtres. Et pour ceux qui connaissent un peu le Nouveau Testament, je voudrais vous demander de vous imaginer pour un instant si vous deviez faire comme le CV de Paul. Si on devait faire la défense de Paul, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour montrer que, oui, en fait, c'est pas n'importe quoi, Paul. On pourrait s'imaginer toutes sortes de choses qu'on pourrait mettre. On pourrait dire, Paul, il a vu Jésus-Christ ressuscité. Paul, il a été enseigné par un célèbre enseignant juif, il s'appelait Gamaliel. Paul, il a fait des miracles. Dans Acte 13, on voit qu'il y avait un homme rebelle, par son intermédiaire, le Seigneur l'a rendu aveugle. En Acte 14, il y avait un homme qui était infirme, par son intermédiaire, le Seigneur l'a relevé. Il avait énoncé l'Évangile dans plein d'endroits différents. Il avait fondé beaucoup d'églises, beaucoup de convertis. Il avait dirigé comme un institut biblique à Éphèse. Il avait un grand ministère international. Il y a même une fois, dans une autre lettre, dans la lettre aux Galates, il raconte une histoire où il y avait le grand apôtre Pierre qui s'est trompé, et lui, il a été celui qui l'a repris. Paul, c'était celui qui ne se trompait pas, même quand les grands apôtres se trompaient parfois. Impressionnant, Paul. Paul, d'une certaine manière, il avait tous les éléments en main pour montrer que le super apôtre, c'est pas eux. Le super apôtre, c'est lui. Il aurait pu arriver simplement comme ça et dire cela. Et ça aurait été assez. Mais est-ce que Paul parle de cela dans notre texte? Est-ce que Paul parle de cela dans notre texte? Pas du tout. Toutes ces choses, il ne les mentionne même pas. Il ne les mentionne même pas, mais il préfère parler d'autre chose. Autre chose qui lui semble plus important, plus beau, plus précieux. Donc regardons à cela. Verset 23. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. Bien plus, j'ai connu les travaux pénibles. Infiniment plus les coups. Bien plus les emprisonnements. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Puis il continue. Paul, qu'est-ce qu'il présente? Est-ce qu'il présente ses accomplissements, ses œuvres? Non, ce qu'il présente, c'est une grande liste de ses souffrances pour Christ. Travaux pénibles, emprisonnement, coups, danger de mort. On aurait pu s'attendre à une évocation de ses accomplissements passés. Mais Paul préfère présenter ce qu'il a été prêt à subir pour Christ. Des mots qui résument la longue liste de Paul, c'est souffrance, peine, danger. Verset 26. Je continue dans la lecture. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, etc. Verset 27. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid, au dénuement. Verset 28, il parle d'une autre souffrance encore. Et sans parler du reste. Je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je ne brûle? Dans son amour ardent, Paul souffrait sans cesse d'inquiétude pour les différentes églises qu'il connaissait. Au verset 30, Paul y résume ces choses par le mot « faiblesse ». S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Paul déclare que selon lui, s'il faut faire le fier, s'il y a quelque chose qu'il pouvait mettre en avant, c'était sa faiblesse. Qu'est-ce que Paul pourrait bien vouloir dire par là? C'est de ma faiblesse que je me vanterai. Je ne veux pas dire que c'est sa faiblesse dans certains domaines qui pourrait le pousser à pécher, dont il parle. Non, c'est pas de ça. Pas en train de dire « Ah, je suis faible, j'ai un problème avec l'alcool. Ah, je suis fier de ça. » Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout dont il parle. Ce qu'il présente comme source de fierté, c'est pas son statut, ses accomplissements, ses dons. Non, c'est son abaissement pour Jésus. Son abaissement pour Jésus. Les périls, les coups, les difficultés, les peines, les malheurs qu'il a été prêt à subir par amour pour Jésus. Ça, c'était ce qui était vraiment glorieux. Au travers de cette liste et de cette réponse de Paul, ça transforme notre perspective sur qu'est-ce qui est glorieux. Les Corinthiens, influencés par le monde, y regardaient à ce qui était glorieux et se laissaient impressionner par des hommes éloquents. Paul invite à regarder au-delà des apparences. On ne connaît pas énormément de choses sur ces super apôtres, mais ils sont présentés comme étant des personnes éloquentes qui avançaient sur base de recommandations, sur base de leur origine juive, des personnes aussi qui demandaient une compensation financière pour leur service. Et quand on regarde profondément, on voit qu'une des choses qui les caractérisait, c'était que dans leur service de Christ, ils se servaient eux-mêmes en même temps. Ils étaient payés pour parler, et alors, ils parlaient. En revanche, Paul se présente comme étant moins éloquent, mais il était caractérisé par un amour sacrificiel pour Christ. Un amour qui le poussait à braver toutes sortes de dangers, à supporter toutes sortes d'épreuves, subir toutes sortes de peines par amour pour Christ. Paul, il n'était pas payé pour parler. Paul, il était frappé quand il parlait. Et pourtant, il parlait. Au-delà des apparences, qu'est-ce qui était réellement impressionnant? Qu'est-ce qui était vraiment glorieux? Plus tôt, dans la lettre aux Corinthiens, cette deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, on n'a pas lu ce verset aujourd'hui, il y a un verset qui me paraît assez important pour notre texte. Je vais le lire. Donc, chapitre 5, verset 14, Paul qui dit cela, « C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En vertu du grand amour que Christ a manifesté envers nous, par sa mort à la croix pour nous donner la vie, chacun est appelé à vivre en retour pour Jésus, qui nous a tant aimés. » Ces super apôtres, ils pouvaient être beaux, éloquents, avec un succès, mais vivaient-ils pour Christ ? Vivaient-ils pour Christ ou vivaient-ils plutôt pour eux-mêmes et leurs propres intérêts? C'est facile de prêcher devant des gens quand on est payé et félicité pour cela. C'est pas mauvais de le faire, il y a des besoins de pasteurs, c'est pas mauvais de soutenir un pasteur, mais c'est pas spécialement glorieux, c'est pas spécialement glorieux ou impressionnant. En revanche, une personne qui sert de façon sacrificielle, d'une façon coûteuse, par amour pour Christ et pour les autres, ça, c'est réellement glorieux. Une personne dont la vie illustre ces deux aspects, c'est Eric Liddell. Je ne sais pas si quelques-uns le connaissent. Eric Liddell, c'est un Anglais qui a vécu au XXe siècle. Et en 1924, il a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques pour les 400 mètres. C'est glorieux, c'est impressionnant, tout le monde applaudit. Très glorieux. Au lieu de persévérer dans une carrière d'athlète international, qu'est-ce qu'il décide de faire? Ce qu'il décide de faire, c'est d'abandonner une vie de richesse pour aller servir pour Jésus en Chine. Ce qu'il décide, c'est d'abandonner ses biens et d'aller vivre dans la pauvreté, pour faire connaître Jésus à des personnes qui ne le connaissent pas. Quelques années plus tard, alors qu'il persévère dans des circonstances difficiles, il meurt lui-même à cause d'une maladie. Aux yeux du monde, rien de glorieux, rien de glorieux. Humiliant, pathétique, mourir dans la pauvreté et la maladie. Mais aux yeux de Dieu, c'est glorieux. Quel a été, on peut se poser la question, chacun d'entre nous, quel a été le moment le plus glorieux de sa vie? Et si on s'arrête sur la médaille d'or, on ne voit pas exactement les choses comme Dieu les voit. Courir vite, c'était bien, bravo à lui. Mais il y avait plus glorieux que cela. Jésus-Christ lui-même, qui est notre Seigneur, notre Roi, notre Sauveur, comment est-ce qu'il a manifesté la gloire de Dieu? Ce qu'on voit dans sa vie, c'est qu'il a manifesté la gloire de Dieu au plus haut point par sa mort à la croix. Pas par la grandeur de ses miracles, pas par la beauté de son apparence, pas par sa force, mais dans sa mort. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 23, Jésus dit ceci. « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » De quelle heure parlait-il? Et comment serait-il glorifié? Quand on lit la suite de l'évangile, on se rend compte que c'est par sa mort à la croix, dans sa souffrance, dans son humiliation, tout ça qu'il accomplissait par amour pour sauver des hommes et des femmes. Selon les apparences, c'est ridicule. C'est pas glorieux de mourir sur une croix. C'est honteux. On faisait ça pour humilier les gens. Mais nous qui connaissons ses motivations, pourquoi il l'a fait, comment Dieu a accompli son plan au travers de cela, nous pouvons dire que c'est glorieux. Nous y voyons sa gloire. Nous disons et nous célébrons, Jésus est glorieux. Ainsi, comment est-ce que nous pouvons encore dans nos vies, continuer à nous attacher aux apparences après ça? Continuer à voir les choses sans plus de profondeur? À vouloir vivre pour ce qui est glorieux selon le monde, plutôt que pour ce qu'il est vraiment? Notre texte nous enseigne que ce qui est précieux, ce qui a réellement de la valeur, c'est pas le statut social, le statut social. Les accomplissements, les dons, les expériences, le pouvoir, les possessions, la richesse ou la beauté physique. Non, ce qui est réellement glorieux, c'est une vie vécue sacrificiellement dans l'amour de Christ. Savoir s'abaisser pour Christ. Ne nous y trompons pas. Ne nous laissons pas influencer par notre monde. Considère vraiment glorieux des choses qui ne le sont pas. Le monde, dans son orgueil, dans sa rébellion, a des conceptions très tordues ou très superficielles de ce qui est glorieux. Si nous, en tant que chrétiens, qui reconnaissons Christ, nous considérons glorieux ce que le monde considère glorieux, si nous avons une même définition du succès que ce que le monde considère comme le succès, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. L'évangile de Luc, chapitre 16, au verset 15, Jésus déclare ceci. Il déclare « Ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. » Ne nous y trompons pas. Les choses que le monde considère comme glorieuses ne sont pas les mêmes choses que Dieu admire. Les choses que le monde considère comme glorieuses, comme les statuts sociaux, la popularité, les richesses, l'éloquence, la mode, le pouvoir, sont souvent vraiment pas très glorieuses aux yeux de Dieu. Souvent, c'est bien l'inverse, car ces choses sont généralement utilisées pour vivre égoïstement, pour s'attribuer des bienfaits. On fait ces choses sont utilisées pour un amour propre, généralement, en l'utilisant pour user des autres à son avantage. Ce qui est vraiment glorieux aux yeux de Dieu, c'est un amour sacrificiel qui est prêt à souffrir pour Christ et son prochain. Ce texte nous reprend sur notre manière d'exprimer, enfin, d'estimer de nombreuses choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut considérer comme précieuses, qui finalement peuvent se révéler comme étant clairement pas aussi belles et glorieuses que nous le pensons. D'autres choses que nous méprisons se révèlent finalement plus précieuses que nous aurions pu l'imaginer. Pour les Corinthiens, dans leur contexte, à la lumière de cela, ils pouvaient se rendre compte que leurs super apôtres, c'était pas si super que ça. C'était finalement que des fraudes. Ils pouvaient paraître impressionnants, se vanter de grandes choses, mais qu'avaient-ils été prêts à souffrir pour Christ? Je sais pas, mais en tout cas, on n'a pas d'informations par rapport à ça. On peut supposer vraiment pas grand-chose à leur manière de se comporter. S'ils ne les payaient plus, est-ce qu'ils allaient continuer à servir ces super apôtres? Probablement pas. Est-ce qu'ils avaient fait face à l'opposition? Non, et on voit qu'ils se contentaient d'aller de ville en ville selon leurs recommandations. Derrière leur gloire, leur beauté, c'était du toc. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? De manière similaire, ça peut encore nous arriver de croiser en personne ou sur Internet des personnes qui sont aussi très éloquentes, qui sont aussi impressionnantes, qui se vantent de grandes choses, qui se vantent de leur succès. Ça peut être même des pasteurs de grandes églises, des hommes qui peuvent paraître impressionnants, qui sont applaudis, qui sont mis en avant. Et face à ces situations, ce texte nous invite à réfléchir, à nous poser des questions. Est-ce que, au-delà des apparences, il y a vraiment quelque chose? Est-ce réellement impressionnant? Ces personnes sont-elles définies par un amour sacrificiel pour Christ et pour leur prochain? Ou sont-elles bien trop guidées par leur propre intérêt, par la gloire, par le pouvoir, par ce qui est beau aux yeux du monde? Avec ce genre d'enseignants, souvent des églises dérivent terriblement. Le pasteur est beau, éloquent, populaire, on l'acclame et on présente les bénédictions qu'il peut avoir, les bénédictions terrestres, comme lui étant données comme récompense pour sa bonne réussite. Mais réveillons-nous, voyons à quel point c'est complètement différent. C'est complètement différent de ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Paul, le super apôtre. Paul qui était un bon apôtre. Comment est-ce qu'il vivait? Vivait-il dans la richesse? Non. On voyait qu'il souffrait, en danger. Il était bon et pourtant il souffrait. À l'image de Christ, il n'était pas dans la gloire, mais il s'abaissait humblement en se donnant sacrificiellement par amour. De manière plus large, cet enseignement il nous reprend également quand nous convoitons de nombreuses choses qui sont glorieuses aux yeux du monde et qu'on méprise ce qui est réellement glorieux aux yeux de Dieu. On peut convoiter un haut poste, une belle situation, la richesse, la beauté physique, toutes sortes de choses qui sont belles aux yeux du monde, qui certes ont une certaine valeur, mais qui ne sont clairement pas les choses auxquelles Dieu nous appelle à aspirer. Dieu nous appelle à aspirer à quelque chose de plus glorieux. La pauvreté, l'humiliation sociale, le rejet, la peine, l'exclusion, la solitude, c'est des choses que personne ne poursuit, auxquelles le monde n'aspire pas. C'est une honte. Mais si ces choses sont subies comme conséquence de notre amour pour Christ, de notre amour pour notre prochain, aux yeux de Dieu, c'est infiniment plus glorieux que toutes les belles choses du monde. Il ne s'agit pas d'être rejeté en soi. Si on est rejeté pour sa méchanceté, il n'y a rien de glorieux. Mais si on est rejeté parce que, par amour, on désire parler de Christ, de la réalité de Dieu, de son jugement et du salut qu'il y a en Jésus-Christ, qu'on préfère parler de ces choses à notre prochain et qu'on est rejeté, là, c'est glorieux. Il ne s'agit pas de la pauvreté en soi, Si on est pauvre, parce qu'on est paresseux ou parce qu'on dépense mal son argent, bah, c'est pas spécialement beau ou glorieux. Mais si on est pauvre, parce que bah, par amour, on donne une bonne partie de ses biens, par amour pour Christ, pour notre prochain, bah là, c'est glorieux. Il ne s'agit pas de travailler dur en soi et d'être dans la peine au travail. Seulement, si on travaille dur parce qu'on veut toujours plus d'argent, pour s'acheter toujours plus de confort, c'est pas si glorieux que ça. Mais si on travaille dur, bénévolement, par amour, pour Christ et pour le bien des autres, c'est glorieux. Il est plus beau de nettoyer de façon anonyme les toilettes de l'église que de travailler plus à son travail pour pouvoir s'acheter une belle voiture et épater tout le monde. Actuellement, on est en été. Il y a plusieurs camps qui ont lieu, des camps qui ont pour but de faire connaître Christ à des enfants. Et un exemple auquel j'avais pensé en préparant cet enseignement, c'est de se dire, bah, ce qui est glorieux aux yeux du monde, c'est quoi ? C'est des belles vacances. On prend des semaines de vacances, on va voyager loin, dans des endroits paradisiaques, on profite du confort, dans des endroits extraordinaires, avec plein de confort. Ça, c'est glorieux aux yeux du monde. Aux yeux de Dieu, ce qui pourrait être plus glorieux, c'est de prendre, et des gens le font, prendre une de ces semaines de vacances pour aller servir dans un camp, donner de son temps, donner de son énergie pour s'investir dans des situations pas toujours faciles, avec des enfants pas toujours sympas, pour servir Christ. Il y a quelques années, sur Facebook, je suis tombé sur une publicité où on voyait un jeune entrepreneur qui avait beaucoup d'argent. Il était jeune, sportif, il semblait avoir beaucoup d'argent, il se montrait en photo à Dubaï avec une belle voiture, une montre de luxe, tout fier. Et ça, c'est ce qui peut paraître glorieux selon le monde. Ah, c'est beau, il a tout ce qu'il veut. Mais aux yeux de Dieu, ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne vaut pas grand-chose. Un jeune qui, avec ses dons, avait tout fait pour son propre confort, qui vivait pour lui-même, qui vivait pour l'argent, qui s'achetait des choses hors de prix pour impressionner les autres. Est-ce que c'était vraiment si beau que ça ? Est-ce que c'est vraiment si glorieux ? Est-ce à cela que nous voulons attribuer de la valeur ? Non. Non. Appelé à être transformé à la lumière de Christ, notre roi, qui est mort sur une croix, honteusement méprisé, qui a fait cela par amour, qui a donné sa vie pour que nous puissions être réconciliés à lui. Chacun peut se faire tromper par les apparences du monde de différentes manières. Pour certains, ça peut être le pouvoir, d'autres les richesses, d'autres la beauté physique, d'autres choses encore. Mais Dieu nous appelle à regarder plus profondément, à regarder plus loin et nous abaisser pour Christ. Prendre un exemple qui serait assez, assez simple. Imaginez une femme qui investirait énormément de temps pour travailler sur son apparence, sur toute son apparence. Beaucoup de temps devant le miroir, beaucoup de temps à la salle de sport, beaucoup de choses pour être belle. D'une certaine manière, c'est beau. C'est beau, mais est-ce que c'est ce qu'il y a de plus glorieux ? Non, est-ce que ce ne serait pas plus glorieux d'être plutôt une femme qui, au lieu d'investir tout ce temps pour elle-même et paraître belle, s'investirait par amour, sacrifierait de son temps pour servir les autres qui seraient dans le besoin, qui iraient rendre visite à des amis qui iraient mal, qui serviraient humblement selon ses capacités sans se plaindre, sans rechercher à être admirée pour cela ? Regardez aux performances et aux accomplissements, d'une certaine manière, on peut dire que c'est vraiment très limité. Qu'a-t-on que l'on n'a point reçu ? Chacun a eu des histoires de vie différentes, passé par des situations différentes. Nous avons des capacités différentes et chacun peut réaliser à son échelle des choses différentes. En revanche, chacun de nous peut encore, aujourd'hui, selon nos capacités, à notre façon, être prêt à vivre d'une façon sacrificielle pour Christ. Comme Paul, à nous abaisser pour Chris d'une façon qui entraînera des coups, enfin certains coups, pas forcément des coups physiques, des difficultés, des souffrances. Je doute que aucun d'entre nous qui est ici présent ira jusqu'à souffrir autant que Paul nous le raconte dans ses histoires. La liste de souffrances de Paul, on voit qu'elle est longue, qu'elle est impressionnante. Mais qu'importe, à notre échelle, selon nos moyens, la question est plutôt à quoi est-ce que nous nous attachons ? À quoi poursuivons-nous ? Est-ce que considérons-nous que le succès, c'est la même chose que ce que le monde considère ? Vivons-nous pour nous-mêmes, pour le confort ? Recherchons la gloire, la richesse, le pouvoir ? Ou voulons-nous vivre pour Christ, par amour, en nous offrant pour lui-même, enfin pour lui, même s'il faut souffrir pour cela. Si, voilà, le message d'aujourd'hui est de ne pas être naïf, de ne pas nous laisser emporter par les apparences, mais nous attacher à ce qui est vraiment précieux. Je vais terminer par une autre anecdote tirée de l'histoire de l'art qui illustre et illustre notre propos. Il y a quelques années, il y a un tableau d'un artiste qui s'appelle Banksy, qui a été vendu aux enchères. Bon, il a été vendu très cher, c'était déjà un tableau assez impressionnant, pour 1 million. Et au moment même où il allait être vendu, il a été vendu, paf, le tableau a commencé à se déchirer. Le tableau a commencé à se déchirer en plusieurs morceaux et s'est autodétruit. Et plusieurs, en voyant ça, ont commencé à crier « Ah, c'est quelque chose d'horrible !» C'est quelque chose d'horrible. Pourtant, ce qu'on voit finalement, c'est que ça avait été planifié par le Créateur à l'avance. Ça a fait beaucoup de bruit. Ce tableau est devenu beaucoup plus célèbre. Et aujourd'hui, ce tableau vaut 18 fois plus. 18 fois plus. 18 millions. Et on peut dire, d'une certaine manière, que la valeur de ce tableau vient de sa destruction, de sa faiblesse. Le tableau était resté tel quel, il ne vaudrait jamais aussi cher. De même, dans nos vies, à l'image de Christ, réalisons que quand nous perdons d'une certaine manière notre vie par amour pour Christ, alors qu'aux yeux de Dieu, enfin aux yeux du monde, notre vie peut sembler se déchirer pour Jésus, pour notre amour pour Jésus, nous ne perdons pas vraiment notre vie. Au-delà des apparences du présent, en réalité, aux yeux de Dieu, c'est beau, glorieux et précieux. Reconnaissons ce qui est réellement glorieux, attachons-nous à ce qui a réellement de la valeur, offrons-nous sacrificiellement pour Christ en retour, lui qui s'est offert pour nous. Prions. Merci Père pour ton immense amour envers nous. Merci parce que toi qui étais au plus haut, toi qui étais le plus glorieux, qui méritait toute gloire, qui avait toute puissance, tu nous as aimés. Tu nous as aimés au point de t'abaisser au plus bas. Tu nous as servi. Tu es mort pour nous. Et merci pour ton grand amour envers nous. Et te demandons pardon quand nos vies, quand tellement de fois, nous avons tendance à nous laisser emporter par des choses superficielles, par les apparences. Tellement de fois, notre perspective du succès, de ce qui est glorieux, est encore tellement touchée par le monde, par notre chair, et nous poursuivons des choses qui ne t'honorent pas. Te demandons pardon pour cela et te remercions pour l'assurance que nous pouvons avoir malgré nos faiblesses, que malgré nos péchés, que en Jésus-Christ, nous sommes en lui, nous sommes pardonnés. Et je te prie que par ta parole, cette semaine, dans le reste de nos vies, tu puisses transformer notre perspective sur ce qui est glorieux, que nous puissions vivre pour toi, malgré les obstacles, malgré les souffrances, que nous puissions vivre pour toi avec amour, le faire avec joie et reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen.